Merci Michael. Bonjour. Que ce soit en CM1 ou dans une boîte du CAC 40, on apprend très vite dans la vie, dans la société, que tu reçois ce que tu mérites. Avec les notes données par l'instituteur ou les bonus à la fin de l'année, on a l'impression que tu reçois ce que tu mérites. Et on pourrait parfois penser que c'est pareil avec Dieu. Devant Dieu, nous recevons ce que nous méritons. Et donc, on regarde ceux qui partent à l'église dimanche matin et ils y vont pour mériter plus. Alors, ça fait déjà 2 semaines que nous suivons les travaux, non pas aux rues Médéric, le numéro 9, mais les travaux au chantier du Temple à Jérusalem. Okay, nous sommes dans le livre d'Agé. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était parti en Babylone sous le jugement de Dieu. Ils sont revenus dans leur pays suite à l'exil. Et ils ont repris les travaux. Mais est-ce que les ouvriers qui travaillent au chantier de Jérusalem, est-ce qu'ils vont recevoir ce qu'ils méritent? Alors je vous invite, s'il vous plaît, à prendre votre Bible, à tourner à la page 605, 605, et je vais lire à partir du chapitre 2 et le verset 10. Agé 2, le verset 10, à la page 605. Le 24e jour du 9e mois, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Propose au prêtre 7 questions sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qui touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes? Les prêtres répondirent, non. Agé dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Alors Agé reprit la parole. C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, avant que ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel. Réfléchissez attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. Alors, je vais prier pour que Dieu nous aide avec la lecture et la compréhension de ce texte. Notre Père Céleste, tu as parlé par ton esprit, par la main d'Agé, il y a tant d'années, pour corriger un peuple fortif et pour encourager un peuple découragé. Parle-nous, s'il te plaît, ce matin pour nous corriger et aussi pour nous encourager. Et nous prions ça pour ta gloire. Amen. Amen. C'est le 18 décembre 520. C'est la date du verset 10. Et donc, ça fait plus que 3 mois depuis le premier oracle d'Agé. Et un peu moins de 3 mois depuis que le peuple a repris les travaux pour le temple. Et lorsque le temple commence à prendre forme, les prêtres commencent à se préparer. Ils lavent leurs vêtements, ils relisent sacrifices et saintetés pour les nuls, ils planifient pour savoir comment ils vont profiter de ces nouveaux locaux du temple. Et Dieu interrompt leur préparatif avec 2 questions avant de proclamer un constat dévastateur. Nous avons la première question au verset 12. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qui touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes? Alors, heureusement pour les prêtres, ce n'est pas une colle. Non! Globalement, la sainteté n'est pas transférable. La sainteté n'est pas contagieuse. Et donc, on passe à la deuxième question, verset 13. Agé dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Alors, de nouveau, c'est par sorcier, même pas pour un prêtre stagiaire. Oui, bien sûr, elles seront rendues impures. Si la sainteté, elle, n'est pas facilement transférée, si la sainteté n'est pas contagieuse, l'impureté, elle, est très contagieuse. Et c'est alors que Dieu proclame au verset 14 un constat dévastateur. Alors, Agé reprit la parole. C'est ainsi que ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Ouf! Toutes les œuvres de leurs mains sont impures. Tout ce qu'ils offrent, que ce soit de leur adoration dans ce nouveau temple, ou même la construction elle-même de ce nouveau temple, c'est impur devant Dieu. Et pourquoi? Parce que l'impureté est contagieuse. Les offrandes du peuple sont impures parce qu'elles sont offertes par un peuple impur. Un peuple impur. Et c'est un constat dévastateur. C'est comme une grande claque pour et les prêtres et les ouvriers et pour les prêtres. Les maçons qui avaient la flemme de persévérer dans les travaux, alors avaient-ils raison? Parce que si le peuple est impur et tout ce qu'il va offrir au temple sera impur, alors mieux vaut-il rentrer chez eux? Est-ce raté avant même que la première pierre soit posée? Alors, c'est un peuple impur, même suite à une réponse insuffisante. Okay. Deuxième titre pour ce matin, on a eu un peuple impur, maintenant nous voyons une réponse insuffisante. Parce qu'à partir du verset 15, Dieu rappelle au peuple la situation antérieure. Le peuple souffrait les conséquences de leur désobéissance. La loi du Sinaï avait prévu des malédictions et les peuples les prenaient en pleine figure. Les malédictions, comme nous voyons dans les versets 15 et 16, le fait de partir chercher 20 mesures et de trouver 10, le fait de partir à la cuve, puiser 50 mesures, de trouver 20, la rouille, la nielle, la grêle, ces malédictions auraient dû faire réfléchir le peuple. Ces malédictions auraient dû ramener le peuple à obéir à Dieu. Mais ça n'a pas marché. Le verset 17, Dieu le dit, « Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. » Et pourquoi ? Parce que ce peuple n'était pas en train de vivre sous la lumière de la loi de Dieu. Il ne cherchait pas Dieu dans leur vie quotidienne. Ils étaient endurcis et l'orientation naturelle de leur cœur était de s'éloigner de Dieu. Et donc, les malédictions n'ont pas eu d'effet. Il a fallu le prophète Agé et une parole directe de Dieu pour qu'ils reprennent les travaux. Et là, ils ont repris les travaux. C'est une bonne chose. Et malgré le découragement, ils ont persévéré. Et c'est une bonne chose. Mais ça reste une réponse insuffisante. Car il reste un peuple impur, avec des cœurs qui vont se tourner de Dieu, se détourner de Dieu. Et leur obéissance actuelle ne pouvait rien faire pour régler leur désobéissance du passé. Leur obéissance actuelle ne peut en rien cacher l'orientation naturelle de leur cœur, de s'éloigner de Dieu. Et cette réalité se voit dans la pause de cette bénédiction qui va arriver. C'est comme ça que je comprends le verset 19. Y avait-il encore la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Parce que ça fait quand même 3 mois que le peuple travaille, que le peuple a repris les travaux. Mais il ne voit toujours pas la bénédiction de Dieu parce qu'il reste un peuple impur, avec des cœurs loin de Dieu. À leur obéissance apparente, leur rite religieux ne pouvait rien faire pour régler ce problème de pureté, ce problème de cœur. Tout ce qu'ils faisaient, c'était comme mettre du plâtre sur des murs moisis. Ça cache le problème, mais ça ne fait rien au plus profond. Et ce matin, tel que nous sommes, et ces 4 mots sont importants, ce matin, tel que nous sommes sans Jésus-Christ, il n'y a pas de différence entre eux et nous. Tel que nous sommes sans Jésus-Christ, nous sommes un peuple impur. Tout ce que nous pourrions offrir à Dieu serait impur. Nos rites religieux seraient comme mettre du plâtre sur des murs moisis. 500 ans après Agé, un jour, les pharisiens ont demandé à Jésus pourquoi ses disciples ne suivaient pas les traditions de se laver les mains, de se laver les ustensiles avant de manger. Et plus tard, Jésus a expliqué le cœur du problème. C'est le problème du cœur humain. Et je vais lire ce que Jésus a dit à ses disciples. C'est de Marc, chapitre 7, le verset 18. Jésus dit à ses disciples, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, ce qui n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Et donc, peu importe si on se lave avant de manger. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Et c'était le cas pour les Israélites et les personnes à l'époque d'Agé. C'était le cas pour les pharisiens et pour les disciples de Jésus. Et ça reste le cas pour nous aujourd'hui. Nos pensées, nos actes, nos gestes, nos paroles dévoilent notre cœur impur. Et elles rendent tout ce que nous pourrions offrir à Dieu impur aussi. Et donc, attention, faites attention à vos rites religieux. Si vous êtes venu à l'église ce matin pour offrir quelque chose à Dieu, si vous avez pris la scène, si vous donnez de l'argent, faites attention, tels que nous sommes, ces rites religieux, ces petits actes d'obéissance ne peuvent pas régler l'impureté de notre cœur. Ce serait comme mettre du plâtre sur des murs moisis. Et donc, mieux vaut-il rentrer chez nous. Les maçons étaient sûrement en train de ranger leurs marteaux et leurs ciseaux. Ben non. Non, parce que Dieu donne la réponse abondante, la réponse abondante. Le verset 19, à la fin, Dieu dit, « Mais dès aujourd'hui, je bénirai. » Malgré l'impureté du peuple, Dieu s'engage, Dieu promet, « Dès aujourd'hui, je bénirai. » Notez bien que ce n'est pas suite à une réaction du peuple. Notez bien que ce n'est pas une réponse à quelque chose que le peuple avait fait. Ce n'est pas parce que le peuple le vaut bien. Ce n'est pas parce que le peuple le mérite. Dieu promet gracieusement, généreusement, gratuitement, souverainement de bénir. Au contraire du fonctionnement de notre société, Dieu donne ce que nous ne méritons pas. Notez bien aussi que ce n'est pas explicité qui sera béni, ou même comment. Dieu dit tout simplement, je bénirai. Et donc, bien que le peuple ait vécu la bénédiction de leur moisson par la suite, ça me laisse penser que cette bénédiction est plus large que pour ce peuple et leur moisson. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette bénédiction pour nous en 2018? D'abord, si vous êtes en train d'enquêter, si vous êtes en train de mener une enquête sur la foi chrétienne, cette vision de Dieu devrait nous surprendre. Parfois, on pense que Dieu, c'est comme un Père Noël un petit peu plus grand. Il donne des cadeaux à ceux qui le méritent. Parfois, on pense aussi que nous sommes comme des enfants qui, en gros, sont toujours assez bons pour recevoir ces cadeaux. Mais ces versets d'Agé nous donnent la vision biblique que l'homme est fondamentalement impur et loin de Dieu. Mais au lieu de nous laisser dans le trou que nous avons creusé pour nous-mêmes, Dieu choisit généreusement, gratuitement, souverainement de bénir. Et ça devrait nous rendre humbles et reconnaissants devant lui. On dit qu'on n'arrive pas chez quelqu'un les mains vides, n'est-ce pas? Mais devant Dieu, nous ne pouvons qu'arriver les mains vides. Tout ce que nous pouvons faire devant Dieu, c'est arriver les mains vides. Et donc, si vous êtes venu à l'église ce matin pour rendre quelque chose à Dieu, si vous n'êtes pas chrétien et vous pensez que les autres sont venus à l'église ce matin pour rendre quelque chose à un Dieu revendicateur, ben, attention, parce que devant Dieu, nous ne pouvons qu'arriver les mains vides. Mais alors comment? Comment est-ce que nous sommes bénis? Comment est-ce que Dieu peut bénir un peuple impur? Le témoignage du Nouveau Testament, c'est que c'est en Jésus-Christ que nous sommes bénis, que les chrétiens reçoivent toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et comment est-ce possible? Alors d'abord, nous devons voir que Jésus a inversé les règles de pureté. Okay? Donc si les prêtres d'âgé savaient bien que la sainteté n'est pas contagieuse, mais que la sainteté n'est pas contagieuse, et l'impureté, par contre, est très contagieuse, Jésus casse toutes les règles. Jésus inverse toutes les règles. Parce que des lépreux impurs se sont approchés de Jésus. Jésus les a touchés. Et au lieu de rendre Jésus impur, les lépreux sont partis purs. Jésus a touché le corps mort, donc le corps impur d'une petite fille morte. Et au lieu de rendre Jésus impur, alors la fille est revenue à la vie. Donc Jésus, lui, il savait rendre l'impur pur. Jésus, lui, il savait transférer sa pureté. Et donc, si les prêtres d'âgé lisaient Lévitique, ou plutôt au sacrifice et sainteté pour les nuls, nous avons besoin de lire Hébreux pour mieux comprendre ce système de sacrifice et d'offrande et de pureté suite à la venue de Jésus. Et que nous voyons-nous? Alors nous voyons que parce que Jésus était pur, parfaitement pur, Jésus n'avait pas d'offrande à offrir pour son propre péché. Et nous voyons, parce que Jésus était parfaitement pur, il pouvait s'offrir lui-même pour notre impureté, pour notre péché, pour que nous puissions nous approcher de Dieu, pour que nous puissions connaître Dieu et devenir ses enfants. Et donc, la réponse abondante se trouve en Jésus-Christ. La bénédiction abondante se trouve en Jésus-Christ. Écoutez bien, s'il vous plaît, ces versets d'Hébreux 7. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. La réponse abondante se trouve en Jésus. La bénédiction de Dieu se trouve en Jésus. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers de lui. Alors comment? Comment est-ce que les prêtres et les ouvriers et le peuple ont réagi devant l'oracle d'Agé? on ne sait pas, peut-être avec colère. Mais c'est pas vrai. Nous sommes la nation d'Israël. Nous avons fait tellement d'efforts de revenir d'exil, de rebâtir ce temple. Quelle audace de suggérer que nous sommes un peuple impur. Nous pouvons nous en sortir à tout seul, sans cette charité. Ou peut-être ont-ils réagi avec découragement. On ne fait jamais assez pour ce Dieu. Il est trop exigeant. Ce travail au chantier du temple ne servira à rien alors. Ou peut-être ont-ils réagi avec reconnaissance, avec humilité. Oui, nous sommes impurs. Oui, nous avons besoin de sa bénédiction. Et comment réagissons-nous devant ce message du peuple impur et cette réponse abondante de bénédiction en Jésus? Avec colère? Ben, quelle audace de suggérer que nous sommes un peuple impur. Quelle audace! Nous pouvons nous en sortir tout seuls. Ou découragement? On ne fait jamais assez pour ce Dieu. Il est trop exigeant. Ou avec humilité et reconnaissance. Oui, nous sommes impurs. Et oui, nous avons besoin de sa bénédiction en Jésus-Christ. Il y a plus que j'aurais aimé dire. Le Nouveau Testament ajoute que non seulement nous sommes sanctifiés, nous sommes rendus purs par Jésus, mais même nous devenons des prêtres. Et en Jésus, nous pouvons faire des offrandes pures à Dieu. Mais le temps passe. Je vous invite à aller dans un groupe de maison ce jeudi soir pour poser vos questions, pour discuter de vos réflexions autour du livre d'Agée. Mais tel que nous sommes, sans Jésus, nous sommes un peuple impur. Nos réponses humaines seront toujours insuffisantes. Mais la réponse abondante se trouve en Christ. C'est lui le pur qui rend pur les impurs. Et c'est lui qui nous bénit en nous pardonnant. Lui qui nous donne ce que nous ne méritons pas. Et juste pour souligner ça, nous allons finir en lisant quelques versets d'Éphésiens. Je vais lire à partir d'Éphésiens 1. Et je vous invite à écouter. Et lorsque je lis, pourquoi remercier Dieu pour ces bénédictions qu'il nous donne en Jésus-Christ. Donc c'est Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est dans la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestiné suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Et en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Notre bon Père Céleste, nous te remercions de ce que nous pouvons être pleinement bénis en Jésus-Christ. Merci de ce que nous pouvons être pardonnés pour notre péché en lui. Merci parce que lui, le pur, rend pur les impurs. Merci parce qu'il s'est donné une fois pour nous. Et merci parce qu'en lui, nous pouvons te connaître, nous pouvons vivre pour toi. Et c'est en son nom que nous prions et nous te remercions. Amen.